Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Avertissement, cet épisode évoque des violences sexistes et sexuelles. Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie et Marie sans filtre. Sologamie, c'est le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne, et Marie sans filtre, c'est un podcast intime, féministe et politique dans lequel je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Vous écoutez un épisode crossover entre ces deux podcasts au sujet de la rupture amoureuse. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment bien larguer. En effet, je suis une as des ruptures. Moi, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg, en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Dans mon podcast Sologamie, j'ai sorti le mois dernier un épisode avec Tara Lacroix au sujet de la rupture amoureuse du point de vue de la personne larguée. Tara m'y racontait comment son compagnon de longue date l'avait quittée du jour au lendemain, la détresse qu'elle avait ressentie pendant plusieurs semaines et tout ce qu'elle avait mis en place pour se relever. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous conseille de le faire car il a beaucoup plu. Je le trouve aussi très très fort. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, au sujet de la rupture, je vais cette fois parler du point de vue de la personne qui largue, du point de vue de la personne qui quitte l'autre. Comment faire quand on n'est plus heureux, heureuse dans une relation pour la quitter ? Par exemple, si on subit des violences, et si on se sent pas capable de rompre, quelles ressources on peut trouver ? Est-ce qu'il y a une bonne façon de larguer quelqu'un, quelqu'une ? Est-ce qu'on peut aussi traverser un chagrin d'amour, voire une dépression, si on est la personne responsable de la rupture ? Comment on peut affronter la culpabilité ? Je vais répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Mais d'abord, je vais me poser à moi-même les questions traditionnelles de sologamie pour que vous en sachiez un peu plus sur où j'en suis aujourd'hui de mon propre célibat. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être célibataire ? Ça veut dire être en relation amoureuse, affective avec personne au long cours. Depuis quand est-ce que je suis célibataire ? Je suis célibataire depuis août 2018, donc ça fait plus de 4 ans. Est-ce que j'ai souvent été célibataire dans ma vie ? Je dirais que non, puisque jusqu'à mes 17 ans, jusqu'à mes 15 ans, on va dire, j'étais célibataire. Mais après, j'étais en couple plus ou moins de façon continue jusqu'à mes 24 ans. Et donc là, ça fait 4 ans que je suis célibataire. Mais avant ça, j'étais en couple pendant une toute petite dizaine d'années. Est-ce que je relis bonheur et couple ? Avant, je reliais vraiment bonheur et couple. Même quand j'ai commencé ce podcast, je parle du podcast Sologamy, je reliais totalement bonheur et couple. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis célibataire. Et comme je suis heureuse aujourd'hui et que je vis ma meilleure vie, je ne relis plus du tout bonheur et couple. Comment est-ce que j'évalue ma santé mentale aujourd'hui ? C'est très compliqué. Je dis que je vis ma meilleure vie dans le sens où j'ai la vie dont je rêve, mais je viens de quitter mes parents chez qui j'ai passé un an à vivre pour des raisons financières parce que j'avais plus les moyens de payer un appart. Je viens heureusement de déménager à Cherbourg, mais avant ça, j'ai vécu pendant un an chez mes parents qui sont violentes, donc c'était très compliqué. Et puis ça fait aussi 1, 2, 3, 4. Bah, ça fait aussi 4 ans que je suis indépendante, que j'ai quitté le monde de l'entreprise, que je travaille en indépendante et que je gagne très peu d'argent, voire rien. Et donc ça, c'est un peu saoulant de bosser gratuitement tout le temps. Genre, par exemple, ces podcasts, je les fais gratuitement alors que j'ai fait presque 70 épisodes et que c'est du travail, en fait. Donc voilà, c'est un peu compliqué ma santé mentale aujourd'hui, mais globalement, j'ai une bonne psy, j'ai la vie que je souhaite et j'espère que je vais pouvoir me reconstruire à Cherbourg, vivre en sécurité dans un foyer dans lequel les gens ne m'insultent pas. Ce serait cool. Est-ce que mon célibat pèse sur ma situation financière ? Oui, bah forcément, puisque j'étudie de plus en plus le couple et le célibat, donc je sais que quand on vit à deux, bah on divise les dépenses courantes par deux. Là, j'ai un appartement à Cherbourg, bah je le paye toute seule, électricité je paye toute seule, internet si je prends internet je paierai toute seule, etc., etc. Donc forcément, mon célibat ça pèse sur ma situation financière. Après, j'ai la chance de venir d'une famille où il y a beaucoup d'argent, qui a payé mes études, mes parents ont payé mes études, donc j'ai pu travailler à l'après mes études sans partir avec des dettes et j'ai pu gagner de l'argent dans mon premier emploi et aujourd'hui j'ai encore des économies de mon premier emploi alors que je suis au RSA. Donc ma situation financière est compliquée étant donné que je suis précaire, mais j'ai des économies, beaucoup d'économies qui font que je peux me permettre d'être célibataire tout simplement. Comment est-ce que je vis ma sexualité en célibataire ? C'est de la merde. C'est de la merde. Je me masturbe. Non, j'ai aucune sexualité depuis un an. Je veux dire sexualité partagée. Et j'ai été trauma il y a un an par un mec avec qui j'étais pas en couple, puisque ça n'a pas duré longtemps, mais qui m'a trauma. Enfin, j'en reparlerai dans l'épisode. Donc, j'ai pas trop de sexualité partagée en ce moment, voire pas du tout. Mais ça va. Finalement, moi qui adore le sexe et qui dis toujours que c'est ma passion dans la vie... Bah en fait c'est qu'une question d'habitude, moins on fait de sexe, moins ça nous manque, enfin moi j'ai l'impression de ça en tout cas, je peux très bien vivre sans sexe. Est-ce que je suis sensible au regard d'autrui vis-à-vis de mon célibat ? Non, je mets sur ma page Facebook célibataire, vous savez quand on était ado, enfin les gens de ma génération, quand on était ado et qu'on mettait je suis en couple avec machin sur sa page Facebook, bah moi je faisais ça, et personne ne mettait célibataire, tu vois, c'est trop la honte. Bah moi, je mets célibataire, en gros, sur ma page Facebook en 2022 parce que je suis trop fière et que c'est politique. Bon, du coup, il y a des mecs qui m'envoient des vieux messages, mais ça fait partie de mon métier d'être célibataire. Donc, je suis sensible au regard d'autrui. Oui, mais du côté positif, quoi. En fait, ça me ferait trop chier d'être en couple pour le regard d'autrui, justement. Surtout si j'étais en couple avec un mec cis, tu vois, et que les gens me demandaient « Est-ce que t'es en couple avec un mec cis ?» Et je dirais « Oui ». J'aurais tellement honte, j'aurais l'impression d'avoir raté ma vie. Alors, bon, voilà, c'était juste pour refaire un bilan de mon célibat actuel, parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de mon célibat actuel, puisque c'est moi d'habitude qui pose ces questions aux gens que je reçois dans Sologamy. Maintenant, on va revenir au thème du jour, comment bien larguer. D'abord, pourquoi ce thème est important pour moi ? Parce que dans l'épisode précédent de Sologamy, donc avec Tara Lacroix sur se faire larguer, c'est Tara qui raconte comment elle s'est fait larguer. Et donc, pendant une heure, c'est elle qui parle et j'ai pas trop l'occasion de parler puisque, en fait, moi, je me suis pas fait beaucoup larguer dans ma vie. Et du coup, moi, c'était important pour moi de faire l'épisode d'aujourd'hui sur comment bien larguer quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai souvent été plus à l'initiative de la rupture. Donc c'est important pour moi de faire cet épisode, surtout en tant que femme, il y a ce cliché qu'on devrait être passive et que c'est souvent nous qui allons nous faire larguer et que si on est malheureuse dans une relation, bah on prend sur soi. Enfin, je vois tellement de femmes de tout âge autour de moi qui sont restées toute leur vie dans des relations juste parce qu'elles avaient la flemme de partir, tu vois, ou c'était pas possible juste financièrement. Et donc pour moi, c'est totalement politique de larguer quelqu'un en tant que femme, bien que ça pose plein de questions. Je suis pas là pour vous dire larguez votre mec, c'est la seule solution et c'est trop cool de larguer les gens. Non, ça reste une violence de larguer quelqu'un, mais c'est malheureusement le jeu dans cette société patriarcale où les gens veulent qu'on se mette en couple exclusif. Et forcément, quand t'as plus envie d'être en couple exclusif avec telle personne, bah t'es obligé de la larguer et c'est horrible. Donc, on va passer au vif du sujet. Ce qui s'est passé, en fait, pourquoi je me suis mise à larguer les gens, c'est qu'à 15 ans, j'ai vécu ma première relation amoureuse avec un homme cisgenre hétérosexuel. Ce copain que j'avais rencontré sur Skyblog m'a quitté au bout de 2 jours de relation en me disant qu'il avait embrassé une autre fille. Moi, je voyais pas le lien, tu vois. Pour moi, c'était pas un problème. Enfin, pour moi, c'était pas parce qu'il avait embrassé une autre meuf qu'il devait me quitter. Enfin, je voyais pas l'intérêt. Surtout que ça fait 2 jours qu'on était ensemble. Pour moi, j'étais prioritaire sur l'autre meuf. Bref. Donc, il m'a quitté au bout de 2 jours de relation. Et puis, un mois après, il est revenu me supplier pour se remettre avec moi. Donc, on s'est remis ensemble. Et il m'a relargué à nouveau quelques semaines plus tard. Donc, je comprenais pas du tout ses motivations. J'étais ultra amoureuse de lui. Et les 2 fois où il m'a quittée, j'étais au bout de ma vie. En fait, j'ai tellement souffert que j'ai décidé qu'on ne m'y reprendrait plus, que plus jamais je souffrirais de la même façon et donc que plus jamais on me relarguerait. Donc, à partir de cette date, on parle de 2009, à partir de cette date, j'ai largué moi-même tous les mecs avec qui je sortais à partir du moment où je n'étais plus amoureuse d'eux. Et donc, par défaut, j'ai choisi des hommes, inconsciemment, hein, j'ai choisi des hommes que je considérais à mes pieds et que je pensais incapables de me quitter d'eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, mon deuxième copain, moi, je parle de mon deuxième copain parce que je vous ai parlé du premier, mais le premier, pour moi, il compte pas vu que ça a duré 1 mois et que j'avais 15 ans. Donc, mon deuxième copain que j'appelle au quotidien mon premier copain, bref, on s'en fout. Mon deuxième copain, je l'ai largué après 3 ans de relation. Nous n'habitions pas ensemble, nous étions en relation à distance, nous étions étudiants-étudiantes. Et donc, au bout de 3 ans de relation, je me suis lassée et je l'ai quitté juste avant de partir en échange universitaire en Russie. Et je peux pas nier aujourd'hui que peut-être inconsciemment, je me disais la flemme de rester en couple avec lui alors que je vais vivre 1 an en Russie et que je pourrais vivre ma meilleure vie là-bas, tu vois. Donc, on est en 2014, je suis à Sciences Po Lille en études, mon mec habite à Paris et je me rappelle que des fois, je vais le voir à Paris, dans son appart, et un jour, je suis en bas de son immeuble à Paris et tu vois, je sonne chez lui et en fait, j'ai pas envie d'y aller. Genre, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie de monter les 7 étages à pied pour qu'on ken, tu vois, j'ai pas envie. Et du coup, je me rappelle, je monte chez lui et il m'embrasse et genre je suis pas là, tu vois, je quitte mon corps, genre vraiment j'avais pas envie qu'on baise et en même temps on a baisé parce que enfin il m'a pas du tout violée mais je veux dire voilà, je me suis forcée quoi et c'était horrible, tu vois, je me suis dit mais c'est horrible, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, je l'aime trop, enfin je l'aimais trop et j'attendais avec tellement d'impatience nos retrouvailles à chaque fois et là genre j'ai pas envie d'être avec lui, j'ai pas envie de baiser alors que normalement j'ai trop envie de baiser, enfin c'était horrible. Et donc après je lui ai demandé de faire une pause. Enfin je suis retournée à Lille et je lui ai dit bah écoute, on fait une pause d'une semaine et donc pendant une semaine, on se parle pas et on fait nos vies. Et dans une semaine, je te dis ce qui se passe, tu vois. Donc le mec, il était au bout de sa life. Il m'a écrit des lettres et tout. Et en fait, pendant la semaine de pause, j'étais pas sûre, tu vois. Mais la semaine de pause, elle m'a juste confirmé que je l'aimais plus. Parce qu'en fait, j'avais juste envie de me taper tout ce qui bougeait. Donc j'ai couché avec 2 mecs et j'ai embrassé un 3e mec qui a pas voulu coucher avec moi. Donc tu vois, on va dire que j'ai eu des relations avec 3 mecs en une semaine, alors que ma seule relation sexuelle, c'était avec ce gars avec qui j'étais en couple depuis 3 ans. Donc c'était la révolution, c'était en 2014, donc j'avais genre 19 ans. Et donc au bout d'une semaine, on s'appelle et je lui dis bah c'est terminé quoi, enfin c'est mort, j'y ai réfléchi pendant cette semaine et je veux plus être avec toi. Et en fait, il était tellement à fond qu'il me disait, mais comment tu peux être sûre? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, tout ce qu'on a construit et tout. Comment tu peux être sûre que tu m'aimes plus? Et en fait, il me harcelait comme ça, il voulait pas lâcher. Et en fait, il était ultra catho aussi. Et je pense peut-être qu'il se voyait faire sa vie avec moi, tu vois. Enfin, il était très attaché à moi. Et au bout d'un moment, en fait, j'en avais tellement marre au téléphone que je lui dis, bah écoute... Je suis sûre parce que je me suis tapé 3 mecs en une semaine. Donc je suis sûre que j'ai baisé 2 mecs en une semaine. Donc je suis sûre que je t'aime plus. Et je savais très bien que ça allait le détruire que je lui dise ça parce qu'il était à fond dans la fidélité. Et donc qu'il allait comprendre qu'on n'était plus ensemble à partir du moment où je lui dis j'ai couché avec d'autres mecs. Voilà. Et donc le mec s'est effondré. J'aurais jamais dû lui dire ça. Mais sur le moment, j'ai trouvé que ça pour qu'il me lâche, quoi. Bref. Mon deuxième copain, c'était le mec avec qui j'ai couché pendant la semaine de pause. Ah bah non, du coup, c'était mon troisième copain. Je me suis complètement gourée. Bon, bref. Mon troisième copain, c'était le mec avec qui j'ai couché pendant ma semaine de pause avec mon deuxième copain. Donc celui-là, il a voulu se mettre en couple avec moi. Je me suis mise en couple avec lui, hein. Et je l'ai largué, lui, celui-ci, au bout de 2... Mais je raconte n'importe quoi. Ah, je me suis confondue de paragraphe. Lui, je l'ai quitté au bout de 2 ans de relation. En fait, mon troisième copain, il était violent psychologiquement, verbalement et physiquement avec moi. Mais j'en avais pas conscience quand on était ensemble. Il s'appelle Paul Boulben et je raconte cette relation dans l'épisode « Je sors 2 ans avec un homme violent » de mon podcast « Marie sans filtre ». Donc je suis restée avec lui 2 ans, malgré le fait qu'on se quittait régulièrement. Puis on se remettait ensemble. Et à la fin, j'ai à nouveau instauré une pause. Donc là, c'était pareil. J'étais partie faire le chemin de Compostelle en juin 2016, donc j'avais 22 ans, et quand je reviens à Lille pour faire mon stage d'été dans un journal, j'arrive à Lille et je monte dans mon appart, et là le mec il était dans mon appart, il voulait me faire une surprise parce que ça faisait un mois qu'on s'était pas vu que j'étais sur le chemin de Compostelle. Et donc là je vois mon mec Paul, on était toujours ensemble, on n'était pas en pause du tout, et ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, et je le vois et j'avais pas envie de le voir, exactement pareil, tu vois, genre j'avais pas envie qu'il me fasse cette surprise alors que c'était adorable de sa part, tu vois. Et donc, pareil, on passe la soirée ensemble, la nuit ensemble. Et après, donc j'ai instauré une pause. Et en fait, là, je pense que j'ai même pas mis de délai. Enfin, j'ai fait n'importe quoi à nouveau. Mais la pause, elle a duré genre 1 mois. Après, comme on s'était souvent quitté, remis ensemble, il n'y avait pas ce truc de... Mais je crois que c'était une pause quand même, hein. Et puis après 1 mois de pause où j'ai également couché avec des mecs... cette fois, j'étais allée sur les applis de rencontre. On s'appelle. Et là, je le quitte pour de bon au téléphone. Et lui, il avait anticipé, peut-être parce qu'il savait ce qui s'était passé avec mon précédent copain. Il m'a dit par téléphone, de toute façon, je sais, ça fait 1 mois, tu te tapes tout ce qui bouge. Enfin, il m'a traité de salope, entre guillemets. Enfin, en gros, quoi. Je pense pas qu'il m'a traité de salope en vrai, mais c'est ce qu'il voulait dire. Donc j'étais trop choquée, j'étais en mode « Bah, comment il peut savoir que j'ai couché avec des mecs ?» Je suis parano, il m'a surveillée et tout. Enfin bref, j'en sais rien. Il avait juste supposé que je m'étais tapé des mecs et c'était vrai. Et du coup, je l'ai quitté et bah, il devait être triste aussi. Maintenant, on passe à mon quatrième copain. Donc lui, je l'ai quitté après 1 an de relation. Donc si t'as suivi, le deuxième c'était 3 ans, le troisième c'était 2 ans et le dernier c'était 1 an de relation. Pareil, je l'aimais plus, j'étais lassée. En fait, au bout d'un moment, je me lasse et je me rends compte que le nombre d'années flanche, donc je me lasse de plus en plus vite des mecs. Et donc là, pareil que pour mes 2 précédents copains, je le fais par téléphone. Je le quitte par téléphone. On était aussi en relation à distance et donc c'était la meilleure solution pour moi de le quitter par téléphone. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'un soir, je suis à Paris chez des amis et il y avait un mec que je connaissais pas qui m'excitait de ouf. Enfin, il me faisait rien. On se parlait juste, hein, mais moi, j'avais trop envie de le pécho. Et je le pécho pas vu que le mec ne voulait pas, je pense. Et donc, j'étais trop chaude. Et j'écris à mon copain par SMS avant de le larguer. Hein, je lui ai écrit « Ah, j'ai trop envie de baiser. J'ai trop envie de te voir. » Parce qu'en fait, comme il y avait un mec à la soirée qui me plaisait, mais que... ça n'allait pas se faire, je me suis dit je vais écrire à mon copain à la place, tu vois. Donc j'écris à mon copain qui vit à Nantes et lui il me répond, tu vois, trop chaud, il me répond bah pas de soucis, si tu veux je viens demain en stop à Paris, comme ça on pourra se voir et tout. Et j'étais trop choquée et je me dis mais non, en fait j'ai pas du tout envie de le voir, je l'aime plus, j'avais juste envie de baiser à ce moment là, tu vois. Et j'avais même pas envie de le baiser lui. Donc c'est là que je me suis rendu compte, pareil, que j'avais plus envie d'être en couple avec lui. Donc pareil, je lui ai répondu « Ah non, en fait, j'ai pas envie que tu viennes à Paris. » Enfin, trop méchant. Et après, je l'ai quitté par téléphone. Et bon, je pense qu'il était triste aussi, mais par téléphone, voilà. On s'est pas dit des horreurs, pour le coup. Donc, ce que je voulais dire dans cet épisode, c'est que je comprends pas les gens qui décrivent la rupture par téléphone, qui disent qu'on doit quitter les gens impérativement en présentiel, face-to-face. En fait, je trouve ça extrêmement violent de convoquer quelqu'un, quelqu'une pour le quitter alors que cette personne ne s'y attend pas. Moi, je trouve que le téléphone, c'est plus courageux que le SMS, que le message sur Insta ou autre, et ça permet aux deux personnes de raccrocher comme elles le souhaitent. Mais après, vous pouvez m'écrire pour me dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous préférez un autre moyen de communication pour larguer. Le débat reste ouvert. Donc après, ce dont je me rappelle, c'est que parfois, j'ai revu mes ex quelques jours après la rupture pour régler des derniers détails. Par exemple, mon premier copain, celui qui m'avait, quand j'avais 15 ans, je devais lui rendre un iPod qu'il m'avait prêté. Mon deuxième copain, celui avec qui je suis restée 3 ans, je devais sans doute lui rendre un téléphone qu'il m'avait prêté. Et puis, il y avait aussi un truc de « on va régler les comptes, on va s'expliquer, tu vois, en vrai ». Mais en fait, je ne recommande pas du tout de se revoir quelques jours après de la rupture pour faire ce genre de choses, s'expliquer ou se rendre des objets, parce qu'en fait, c'est hyper violent, ça se passe toujours mal. Enfin, moi, j'ai super mal vécu, que je sois la personne qui s'était fait larguer ou la personne qui largue, j'ai super mal vécu. Si t'as un truc à rendre à la personne, tu l'envoies par colis suivi ou je ne sais quoi, mais se revoir pour s'expliquer, mais jamais, tu vois, jamais de la vie, parce que du coup, les deux personnes sont pas du tout sur la même longueur d'onde, sont pas du tout dans le même état d'esprit, puisqu'il y en a une qui se fait larguer et l'autre qui a largué. Enfin bref, il y en a une qui espère peut-être rattraper le coup, il y en a une autre qui veut juste se faire pardonner, tu vois. Mon premier copain qui m'avait largué, je me rappelle, il est venu, je lui ai rendu son iPod et après il a voulu me faire un câlin alors qu'il m'avait largué comme une merde et que je le détestais, tu vois. Et donc il s'est mis à me faire un câlin et j'étais en mode bah non en fait, et je me suis barrée. Enfin, c'était hyper violent pour moi que le mec veuille me faire un câlin en mode, tu sais, il voulait qu'on se quitte en bon terme. J'étais en mode, bah non, en fait, on va pas se quitter en bon terme. Tu m'as largué comme une merde, sans aucune raison. Va te faire foutre. Voilà. Donc, ici, c'est mon podcast. Donc, je vais maintenant donner des conseils pour une rupture réussie. Après, c'est que mon opinion. C'est pas du tout objectif. Voici mes conseils. Alors, d'abord, si on a des doutes sur la relation, mais qu'on n'est pas sûr de vouloir rompre, on peut proposer une pause à la personne. Pause pendant laquelle on ne se contacte pas et où on peut réfléchir à l'avenir de la relation. Mais bon, cette pause, ça pose plein de questions parce qu'en fait, combien de temps on fixe à la pause? Et du point de vue de la personne qui va peut-être se faire larguer, c'est extrêmement violent du jour au lendemain, t'es en couple et la personne se dit « on va faire une pause ». Et pendant la pause, tu sais pas quoi faire et tu sais pas ce que la personne fait. Je trouve ça extrêmement violent. Donc voilà. Le problème, c'est que du point de vue de la personne qui veut larguer, comment on peut être sûr quand on a des doutes sur la relation, sans faire de pause, tu vois? Parce qu'en fait, si on ne fait pas de pause, ça veut dire qu'on continue à devoir parler à la personne, lui dire qu'on l'aime, devoir la voir, faire du sexe avec cette personne. Alors que si on met une pause en place, ben on peut vraiment réfléchir et s'éviter, en fait, de toucher la personne et de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc voilà, encore une fois, c'est ouvert au débat. Je ne sais pas c'est quoi la bonne solution. Je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de larguer les gens. Mais c'est ce que je trouve de mieux pour réfléchir, en fait. Après, je pense qu'il faut faire une pause de maximum une semaine parce que mon troisième mec, là, une pause d'un mois, c'était n'importe quoi. Enfin, c'est de la torture psychologique. Même une semaine, ça peut être long pour la personne à qui on impose ça, mais bon, on va dire que voilà, c'est une piste. Ensuite, quand on est sûr qu'on veut larguer la personne, après, on peut aussi ne pas être sûr. Je veux dire, quand j'ai largué les mecs, j'étais jamais 100% sûre. Mais voilà, quand en tout cas, on n'a plus envie d'être avec la personne et qu'on ne ressent plus forcément d'amour pour cette personne, ou en tout cas, plus de sentiments amoureux, ce que je conseille, c'est de larguer par téléphone. Et sans lui laisser d'espoir ni de choix, en fait. Faut pas que la négociation soit possible. Comme mon deuxième mec, là, qui m'avait dit « Mais est-ce que t'es vraiment sûr ?» En fait, on n'est pas là pour négocier. Genre, si je suis pas sûre, bah, je reviendrai vers toi. Mais là, c'est violent pour les deux personnes, en fait, de négocier. Donc, si on ne le sent pas, on n'a pas à détailler les raisons de la rupture. En fait, on n'est pas obligé de dire « j'ai rencontré quelqu'un d'autre » parce que c'est ultra violent. On peut juste dire « voilà, j'ai plus envie d'être en couple avec toi ». Enfin, c'est aussi violent, tu vois, mais... ouais, je veux qu'on se sépare. Et bien sûr, il faut éviter de laisser la personne avec des remontrances ou des révélations. Par exemple, « je t'ai trompé » comme moi j'avais fait avec mon deuxième mec. Là, j'ai couché avec deux mecs... Ça, faut absolument éviter hein, de se tout déballer sur la table en mode de toute façon, je veux te larguer, t'es qu'une merde, blablabla. Non, en fait, on ne fait pas ça. Ensuite, autre conseil, après avoir largué, il faut couper les ponts avec la personne qu'on a quittée pendant plusieurs mois. Je ne parle pas de plusieurs jours, je ne parle pas de plusieurs semaines, je parle de plusieurs mois. Il ne faut avoir aucun contact avec cette personne par message ou par téléphone. Une fois qu'on a réglé les derniers détails, bien sûr, si on a des choses en commun à se répartir... Si on a des enfants en commun, c'est impossible. Mais si on travaille ensemble, c'est impossible. Mais je veux dire, si c'est possible de le faire, couper les ponts totalement et éviter cette personne physiquement. Mais encore une fois, on n'a pas toujours le choix. Moi, j'ai pu le faire et ça m'a vraiment permis de ne pas me remettre en couple avec mes ex et de faire le deuil parce que c'était vraiment mon principe, ne pas me remettre en couple avec mon ex. Après, je l'ai déjà fait de me remettre en couple. Hein. Personne n'est parfait. Mais le fait de couper les ponts, ça permet vraiment de passer à autre chose. Par exemple, mon troisième mec, le mec qui était violent, qui s'appelle Paul, avec qui je suis restée 2 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis ensemble et qu'au bout de quelques mois, je suis donc partie en Russie. Vous vous rappelez, je devais partir en Russie. Donc, je suis partie en échange universitaire en Russie et lui, il était en échange universitaire en Pologne. Donc, bon, la Pologne et la Russie, c'est pas ultra loin, mais j'avais pas du tout envie d'être en relation à distance à ce moment-là, alors que je venais de sortir de 3 ans de relation à distance avec le précédent mec, tu vois. Donc, j'arrive en Russie, je me tape un mec. Oui, bon, du coup, j'ai trompé mon copain et après, j'ai quitté mon copain. Je lui ai dit, bah, en fait, je lui ai pas dit que je l'avais trompé, évidemment, mais je lui ai dit que j'avais plus envie d'être avec lui et que je voulais, voilà, que c'était fini. Donc là, on a coupé les ponts. Le problème, c'est qu'au bout de quelques mois, le meilleur ami de mon ex, qui était donc en Pologne, son meilleur ami, lui, il était en échange universitaire en Argentine et il est mort. Genre, il a eu un accident, il est mort. Et du coup, mon ex, qui était en Pologne, il était super triste, donc il m'a écrit pour me dire que son meilleur ami était mort. Donc là, on a repris contact et on s'est remis ensemble. Tu vois ?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Une fois qu'on a coupé les ponts, enfin qu'on a largué la personne, je trouve que c'est hyper important d'en parler le plus possible autour de soi, pour que tous nos proches soient au courant qu'on n'est plus ensemble. Parler aussi avec les gens, ça permet de digérer, en fait, d'analyser, de mettre ses émotions sur le tapis. Bien sûr, on peut se sentir hyper mal, on peut se sentir coupable, on peut même faire une dépression, même quand on est... Surtout, enfin, qu'on soit la personne qui se fait larguer ou qui largue l'autre, on peut tout à fait faire une dépression, se sentir extrêmement mal. Et c'est normal, en fait. On peut consulter un ou une professionnelle de santé si besoin. On peut en parler à sa supérieure hiérarchique si on a de bonnes relations avec cette personne et que cette rupture a des conséquences sur le travail. C'est ce qu'elle raconte Tara dans le précédent épisode, c'est que bon, elle était du point de vue de la personne qui se fait larguer, mais elle avait des bonnes relations avec son supérieur hiérarchique, donc elle lui a dit qu'elle s'est fait larguer, que comme elle recevait du public tous les jours, que ça aurait des conséquences sur son travail, et du coup il l'a déchargée d'une partie de son travail et elle a pu après elle a pris des vacances, enfin elle a pu aménager son travail, sinon ça aurait eu aussi des conséquences sur les personnes qu'elle accueillait. Et puis elle dormait pas de la nuit, etc. Donc forcément, on fait du moins bon travail dans ces conditions-là. Donc vraiment, en parler aux autres. Et puis après, il faut prendre soin de soi, prendre le temps de réfléchir, de se reconstruire. Surtout, ne pas foncer dans une nouvelle relation. Cette technique pour ne pas se retrouver seule. Je vais foncer dans une nouvelle relation. Évidemment, je vous donne ce conseil que je n'ai absolument pas appliqué, puisque... Entre ma deuxième et ma troisième, voilà, je me suis remise directement au couple avec le mec avec qui j'avais couché pendant ma pause. Enfin, c'était n'importe quoi. Et de mon expérience, c'est plus facile de tourner la page en entamant une nouvelle relation, bien sûr. Mais ça empêche de faire tout le travail sur cette rupture, d'apprendre de ses erreurs, de grandir. Et pour moi, accepter le célibat, même si ça dure juste, je sais pas, un mois ou deux, ça fait partie intégrante du travail de deuil. Et à la place de foncer dans une nouvelle relation, de foncer sur les applis, de foncer vers cette personne qui nous plaisait depuis des années, on peut essayer, je sais pas, de voir ses amis, de s'investir dans un nouvel endroit, de nouvelles activités, de faire, je sais pas, des voyages, du sport, de profiter de sa famille, de voilà, selon ses moyens et son temps disponible, de faire des choses qu'on n'avait pas forcément le temps de faire quand on était en couple, puisque je rappelle qu'être en couple, ça prend un temps infini. Donc voilà, ne pas se remettre en couple le lendemain de la rupture. Ne faites pas ça, même si vous êtes la personne qui largue en fait. Moi je l'ai fait et c'est de la merde. Parce que du coup je me précipitais dans des relations nouvelles. Donc je me suis précipitée dans une relation avec un mec violent. Alors qu'en fait j'avais pas du tout fait le deuil, digéré ma relation avec le précédent mec. Et tout ce que je voulais c'était de pas me retrouver seule avec ma culpabilité. Voilà. C'était pas bien. C'était pas bien. Après, je suis restée 2 ans avec l'autre, hein, quand même. Je l'aimais bien aussi, hein, mais je trouve pas ça cool. Ensuite, on peut parler de l'amitié avec les ex. Est-ce qu'il faut rester ami avec son ex? Alors ça, je pense que ça mériterait un épisode de sologamie en soi, en fait. Mon expérience, c'est vraiment nuancée. C'est-à-dire que mes ex, donc tous ceux dont je te parle... Bon, déjà, le premier, quand j'avais 15 ans, bah, non, je suis pas restée amie avec lui parce que c'était un connard. Tu vas me dire peut-être que les autres aussi c'était des connards, mais en tout cas lui, bah, il m'avait largué comme une merde. Et je pense quand même que quand on se fait larguer comme une merde, on a plus de mal à être ami avec la personne. Mais les 3 autres, après ça, j'ai tenu absolument à être ami avec eux. Et je pense que c'est lié quand même à la culpabilité de les avoir quittés. Je reparlerai de la culpabilité tout à l'heure. Mais en fait, après ces mois de rupture, de coupure de courant, enfin... Oui, on a coupé les ponts, c'est ça. Pendant plusieurs mois, bien sûr, je leur ai pas parlé, je les ai respectés. Et au bout d'un moment, on a recommencé à parler, mais en mode ami. Le problème, du coup, après, on a commencé à se revoir, à boire des coups ensemble. Pour moi, c'est une catastrophe. Je vais te raconter ce qui s'est passé brièvement. Donc le premier, je ne suis pas restée amie avec lui. Le deuxième, à qui je suis restée 3 ans, donc on a commencé à reboire des coups ensemble. Et en fait, c'était trop agréable parce que c'était des rendez-vous comme ça. On se retrouvait, on buvait des bières, on se bourrait la gueule, on fumait des clopes. Et on retrouvait en fait cette complicité qu'on avait quand on était ensemble. Et c'était juste le temps d'une soirée. Et en fait, ce mec... ultra beau, enfin je le trouve très beau, et surtout depuis qu'on est plus ensemble j'ai l'impression qu'il est de plus en plus beau, et donc moi en fait j'avais tout le temps envie de le baiser, alors que je l'ai largué, on est plus ensemble, machin, et donc au bout d'un moment on a recouché ensemble parce que une fois je l'ai emmené dans un bar en face de chez moi. Et donc à la fin, je l'ai embrassé, je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser, on s'est embrassé, après on est allé dans mon appart, on a couché ensemble, et en fait, c'était hyper nul. Genre, ça faisait 5 ans qu'on n'était plus ensemble, on était devenus des potes en fait, et j'ai tout gâché en le pécho. Et en plus, lui, je pense que c'était vraiment le cauchemar pour lui, parce que étant catho, voilà, avec des principes, je pense que c'était la dernière chose qu'il voulait au monde, de recoucher avec son ex. Et en plus, le sexe était hyper nul. Donc le mec, il m'a pénétré, il a joui et il s'est barré. Et moi, à cette époque-là, c'était en 2019, j'avais décidé que les mecs qui me faisaient ça, c'était plus possible, tu vois, de jouir et de se barrer. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Donc je lui ai envoyé un message le lendemain, mais c'est abusé ce que t'as fait. Enfin, moi, j'ai pas joui, tu t'as joui et tu t'es barré. Enfin, c'est quoi ce comportement? Et en même temps, tu vois, quand on couchait ensemble, j'avais l'impression de coucher avec mon frère. Enfin, tu vois, c'était tellement bizarre. On se connaissait tellement bien. Et en même temps, la dernière fois qu'on avait couché ensemble, on avait 5 ans de moins. C'était vraiment super nul. En plus, on a été archi bourrés. Et manifestement, on n'avait pas trop envie de coucher ensemble, tu vois, en tout cas pas lui. Et du coup, je pense qu'il s'est forcé à me pénétrer, enfin vraiment un truc hyper malsain, parce que quand je lui ai dit ça, que je lui en voulais de pas m'avoir fait jouir, bah en gros, il m'a pas répondu. Enfin, il m'a appelé, mais j'ai pas pu répondre à ce moment-là, donc il m'a même pas répondu. Et genre, j'ai dû attendre encore 2 ans après ça pour avoir une explication avec lui. Et encore, c'était par message, j'ai jamais vraiment compris, mais... Voilà, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'avait pas eu du tout envie de coucher avec moi, qu'il s'était forcé, qu'il avait super mal vécu et qu'il avait encore plus mal vécu que le lendemain, je l'engueule, tu vois. Donc, il s'était dit, mais cette meuf est ultra toxique, c'est une connasse. Et donc, maintenant, après, il n'a plus voulu me parler encore pendant 2 ans. Et là, il n'y a pas longtemps, on s'est reparlé en mode tranquille. Mais en fait, j'ai toujours envie de le baiser. Enfin, en fait, tu vois, c'est hyper toxique comme relation parce que lui, je sais qu'il a pas envie de me baiser. Moi, je sais que c'est une idée de merde. Et en même temps, quand je lui parle, je peux pas dire que c'est pour être amie avec lui, tu vois, du coup. Enfin, j'ai toujours une arrière-pensée, donc c'est vraiment de la merde. Et du coup, bah, je pense que je le reverrai jamais, tu vois. Enfin, je pense que si je le revois, ce serait une mauvaise idée. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, donc il était violent. Après, on est resté amis parce que j'avais pas encore dit qu'il était violent, j'avais pas encore réalisé. Donc, on a continué à se voir. Pareil, on prenait des verres ensemble. Et même, je suis allée en vacances chez lui. Genre, plus d'un an après la rupture, je suis allée en vacances chez lui, alors que j'étais en couple avec le quatrième. Pff, c'est une catastrophe. Franchement, la fidélité, mais dans ma tête, ça n'a aucune consistance. Enfin... Ce que je leur ai fait, c'est abusé. Donc, je suis allée en vacances chez le troisième, alors que j'étais en couple avec le quatrième. Et on a... Je peux dire qu'on n'a pas couché ensemble, mais bien sûr que si. Enfin, on se roulait des pelles. Et j'ai dormi dans son lit. Enfin, c'était n'importe quoi. Et après, j'ai réalisé qu'il avait été violent quand on était en couple. Donc, j'ai fait un épisode de podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était l'épisode que j'ai publié en cinquième épisode de Marie sans fil, donc c'était le 2 janvier 2020, le mec il m'a bloqué partout. Alors qu'avant, en plus avant c'était hyper malsain notre relation parce qu'il m'appelait ma chérie tout le temps alors qu'on n'était plus ensemble depuis des années. C'était n'importe quoi. Donc il m'a bloqué partout et voilà, maintenant il fait sa victime et il m'a bloqué partout, surtout qu'après j'ai porté plainte, etc. Et le quatrième, là j'ai un peu moins fait de la merde. Genre on a continué à se donner des nouvelles de... temps en temps, je sais pas, tous les ans ou tous les 6 mois, on se donne une nouvelle comme ça, par SMS, mais genre, on s'est jamais revus. Donc ça, très bien. Très propre, Marie, très propre. Donc l'amitié avec les ex, je déconseille, mais vous faites ce que vous voulez, je n'ai de leçons à donner à personne. Bref, écoutez-vous et ne restez pas avec quelqu'un, quelqu'une, juste pour lui faire plaisir, ne pas le ou la blesser. En fait, on est bien mieux seul que mal accompagné. La preuve, je suis célibataire depuis 4 ans et je vis ma meilleure vie. Et autour de moi, je vois tellement de personnes et d'amis qui passent leur temps à rester en couple, à chercher à rester en couple, à chercher à se mettre en couple, à tout prix. Et en fait, elles y perdent toutes leurs plumes. Genre vraiment, elles y passent un temps infini, une patience infinie. Elles se plient en 5 pour ces mecs. Elles leur sucent la bite. Elles vont déménager pour eux. Elles vont pas dormir pour eux. Elles vont choper des infections urinaires pour eux. Elles vont souffrir pour eux. Elles vont passer des heures à en parler à leur psy. Et en fait, bref, on est bien mieux seul que mal accompagné. C'est ce que je pense, mais ça fait 4 ans que je suis célibataire. Hein. Avant, je pensais pas du tout ça. Maintenant, on va parler de la culpabilité. Je sais que c'est hyper compliqué, surtout si vous êtes une femme, une personne sexisée et que vous avez jamais largué quelqu'un, que vous êtes toujours fait larguer ou que vous avez jamais été en couple. Vous pouvez avoir ce sentiment de, si un jour vous êtes en couple ou si vous êtes en couple actuellement, ce serait trop dur de larguer la personne avec qui vous êtes parce que vous vous êtes investi dans cette relation, vous aimez cette personne et même si aujourd'hui vous avez des doutes, si la relation elle se passe plus comme vous le souhaitez, bah, en fait, vous osez pas quitter la personne parce que vous vous sentiriez trop coupable. Ou alors, vous avez déjà quitté la personne et justement vous affrontez cette culpabilité. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que ça dépend de la personnalité de chacun chacune. Moi, en fait, je fonctionne. Je pense que j'ai eu cette culpabilité qui a fait que justement j'ai voulu rester amie avec mes ex pour me décharger un peu de sa culpabilité. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui m'a empêchée de larguer les personnes. Et comme après, je me suis précipitée dans d'autres relations, je pense aussi le fait de me précipiter dans de nouvelles relations, ça a m'empêché de ressentir cette culpabilité. Et aujourd'hui, je dirais plutôt, il faut faire de la méditation, voir des psys, accepter ses émotions, bla bla bla. Mais je comprends que ce soit hyper difficile à gérer. Et là, je voudrais faire un petit aparté sur une rupture amicale, parce que bon, c'est un épisode sur la rupture amoureuse, mais je pense qu'en rupture amicale, on peut faire des parallèles aussi. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a quelques années, j'ai rompu avec une de mes meilleures amies. On était amies depuis le collège. Et en fait, un été, elle devait venir en vacances là où j'étais, chez ma grand-mère. Et au dernier moment, je lui ai dit que je voulais pas qu'elle vienne. Et après, elle m'a dit pas de souci. Puis après, elle m'a dit, tu veux qu'on se voit quand, du coup? Et en fait, je lui ai dit que j'avais plus envie de la voir et que j'avais besoin de temps et que je reviendrai vers elle quand j'aurais envie de la voir. Et en fait, je lui ai jamais réécrit. En fait, je lui ai jamais réécrit pour lui dire... on rompt, tu vois, genre je veux rompre avec toi. Et en même temps, je lui ai jamais réécrit pour lui dire je veux te revoir. En fait, j'ai juste disparu. Et c'est ultra violent, parce que moi, justement, je fais cet épisode pour dire que je suis une as des ruptures, parce que justement, je largue les personnes, je ne disparais pas, je ne ghoste pas les personnes, je largue les personnes. Et ça pose tout un tas de problèmes, mais au moins je le fais. Et là, je trouve que dans le cadre de l'amitié, c'est beaucoup plus compliqué, car je connais personne qui va rompre avec ses amis, enfin... J'ai jamais eu cet exemple, sauf si voilà, la personne a fait un truc très grave, tu peux rompre. Mais là, il n'y avait aucune raison, tu vois. C'était juste, on était en amis depuis 10 ans, voire plus, 15 ans. Et genre, je m'étais lassée, j'avais plus envie de la voir. J'avais l'impression qu'on n'avait plus de points communs, que j'avais plus rien à lui dire, que je m'ennuyais avec elle. Et plutôt que de rompre, bah du coup, j'ai préféré... Enfin, je lui ai quand même dit, voilà, j'ai pas rien dit non plus, mais j'ai pas mis un point final à cette relation et je me suis dit, mais ça se trouve, pendant des années, des mois, elle m'a attendue et ça a dû être extrêmement violent pour elle parce que bah, j'étais une de ses meilleures amies aussi et enfin, j'imagine même pas la souffrance et du coup, je me sens extrêmement coupable par rapport à ça parce que c'était très faible. Et du coup, souvent, je me dis, bah, je devrais lui écrire une lettre, même maintenant, 3 ans après, pour lui dire. Bah écoute, je suis une lâche, je te présente mes excuses, je n'aurais jamais dû faire ça, voilà, je ne veux plus être amie avec toi. Mais je me dis, mais c'est tellement lâche aussi de faire une lettre, tu vois, plutôt que de lui dire par téléphone. Enfin là, voilà, vraiment, c'est l'exemple de la lâcheté. Je ne lui ai jamais rien dit par téléphone, j'ai tout fait par message et encore, je n'ai pas mis de point final. Donc c'est bien la preuve que je n'applique pas mes propres conseils, surtout en matière amicale et qu'on peut faire extrêmement de mal aux gens. Et voilà, j'ai pas de point final à cette histoire, il ne s'est rien passé de plus. Des fois, elle like mes posts sur Facebook. Enfin, je sais pas si elle me déteste ou quoi, mais je vis avec cette culpabilité et de toute façon, je la mérite, hein. Voilà. Tant que j'aurais pas pris les devants. Bon, voilà. On est à 40 minutes d'enregistrement. Ce que je voulais dire maintenant, c'est qu'après ces 4 relations avec ces 4 mecs, dont les 3 derniers que j'ai quittés, donc 3 ans, 2 ans, 1 an de relation, hop, je suis célibataire, on est en août 2018. Après, bon, maintenant je dis que je suis célibataire depuis août 2018, 4 ans, mais entre 2018 et maintenant, j'ai quand même relationné avec quelques mecs comme ça sur des courtes périodes de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que j'en avais marre des mecs soumis. Hein, j'en avais marre des mecs qui me laissaient les larguer, j'en avais marre. Donc j'ai choisi des mecs plus dominants entre guillemets et du coup je me suis choisi des mecs qui m'ont largué eux-mêmes. Enfin non, ils n'avaient pas les couilles de me larguer, donc ils se sont juste éloignés progressivement parce qu'ils avaient peur de l'engagement et j'ai dû m'auto-larguer. Donc ça, on en parle aussi dans l'épisode avec Tara, le dernier épisode de Sologamy, parce qu'en fait le problème, c'est qu'elle, elle est au téléphone avec son mec. Donc, il va pour la quitter, mais en fait, il la quitte pas. Il lui dit, oui, tu as remarqué, ça fait plusieurs mois que machin, machin. Et puis, au bout d'un moment, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux qu'on se quitte? Tu veux me quitter? Et donc, elle a dû s'auto-larguer, c'est-à-dire qu'elle a posé la question elle-même, est-ce que tu veux me quitter? Et lui, est-ce que tu veux qu'on se quitte? Et lui, il a répondu, oui, je crois. Et ça m'est arrivé, mais un milliard de fois. C'est-à-dire qu'après 2018, j'ai relationné avec des tas de mecs sur les applis de rencontre ou que j'ai rencontré en vrai. Et en fait, ils m'ont pécho. On s'est pécho, on a baisé, on s'est dit je t'aime, blablabla. Bla bla. Et puis au bout d'un moment, ils avaient la flemme. Et plutôt que me dire, écoute, on fait une pause ou je suis pas dispo ou j'ai pas envie d'être avec toi, Bah, en fait, ils sont juste disparus progressivement. Et ils ont fait... Bah, après, ça peut... Ça a plein de noms anglais. Moi, j'appelle ça le breadcrumbing, miettes de pain. Le fait de... Bah, en fait, c'est même pas qu'ils disparaissaient. Ils m'envoyaient toujours des miettes de pain de temps en temps pour me repêcher quand ils en avaient envie. Mais il n'y avait plus le même investissement. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû m'auto-larguer, quoi. J'ai dû leur dire, bah, en fait, j'ai pas envie d'être avec toi si tu me traites comme ça. Alors qu'en fait, c'était eux qui avaient pas envie d'être avec moi, tu vois. Enfin, c'était horrible. Et je parle de ce problème, en fait, des mecs extrêmement lâches qui nous traitent comme de la merde dans le game hétéro sur les applis de rencontre, bien que je ne sois pas hétéro. Je parle de ça dans, sur ma chaîne YouTube, en fait. J'ai fait une vidéo en 2020 qui s'appelle Ma première sextape, qui est sur YouTube. Et je mets son lien dans les notes du podcast si ça vous intéresse. Maintenant, je vais parler de ma dernière rupture, qui a été la plus difficile, puisque en fait, le mec a continué de me harceler après que je l'ai quitté. Classique, me direz-vous, mais je n'avais jamais eu encore ce cas de figure. En tout cas, je ne l'avais jamais verbalisé comme ça. Donc ce mec s'appelle Yanis Bayouri. Je raconte toute cette histoire dans mon podcast Marie sans filtre, dans les épisodes publiés en 2021, qui s'appelle « Je survis à la dépendance affective et je survis au harcèlement de mon ex ». Que vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à écouter, donc peut-être que vous voyez de qui je parle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2021, pour la faire courte, je suis en train de faire mon Survivor Tour, mon Tour de France à pied contre les violences sexistes. Je suis en Bretagne, je suis sur la presqu'île de Crozon, le plus bel endroit au monde. Je rencontre un randonneur qui randonne en sens inverse, qui s'appelle Yanis Bayouri. On se pécho dans la mer. On couche sur la falaise dans sa tente ensemble, c'était génial, on se dit je t'aime, blablabla. On s'échange nos numéros, pendant des semaines on continue à s'appeler, à dire qu'on est ensemble, etc. Je pars en vacances avec lui en Bretagne Nord, avec ses potes. Il me traite comme de la merde, je le largue et ensuite le mec ne supporte pas que je le largue, alors que j'avais bien dit de plus me contacter. Et il commence à me harceler d'appels téléphoniques. Donc je le bloque, mais en fait sur mon téléphone, je peux quand même voir combien de fois la personne que j'ai bloquée peut m'appeler. Donc je me sentais quand même harcelée, sachant que je dormais tous les jours toute seule dans la forêt, que j'étais toute seule toute la journée et que je savais que ce mec savait potentiellement où je me trouvais. Enfin, j'avais l'impression qu'il savait où j'étais. Et c'était vrai d'ailleurs. Et du coup, il me harcèle par téléphone et quand je me couche le soir dans la forêt, je suis jamais sûre de si en me réveillant le matin, il va être à côté de ma tante, tu vois. Enfin, c'était un... J'allais dire un psychopathe, un malade, même pas du tout, c'était juste un harceleur. Et donc, un jour, en fait, il me harcèle aussi physiquement, c'est-à-dire qu'il vient, il voit dans un de mes tweets ma localisation, parce que malheureusement, j'avais pas désactivé la localisation sur mes tweets. Il voit où je me trouve, il vient randonner là où je me trouve, et pendant 3 jours, il me cherche. Et le 3e jour, on se rend compte, quoi, puisque finalement, bah, il était bien à l'endroit où je me trouvais. Le mec, il montrait une photo de moi aux gens qui croisaient sur le chemin pour leur demander s'il m'avait vu. Tu vois le niveau du harcèlement, quoi. Et donc, j'arrive dans un port en Finistère Sud et je tombe sur lui. Et le mec, voilà, me dit « Je sais que tu veux pas te remettre avec moi, mais je voulais juste te dire que je suis désolée, blablabla. » Donc, en fait, juste harcèlement physique. Donc là, bah, il nous reste que la méthode forte. Parce qu'en fait, je l'avais bloqué sur tous les réseaux sociaux, j'avais bloqué son numéro. Et au bout d'un moment, bah, j'ai dû porter plainte, quoi. Parce qu'en fait, moi, je devais continuer à marcher. Je pouvais pas continuer à marcher si les mecs étaient derrière moi. Enfin, c'était impossible. Là encore, on était dans un port, il y avait des gens. Mais si je l'avais croisé comme ça en race campagne dans une forêt ou sur la plage, qu'est-ce que j'aurais fait, tu vois? Enfin, je me serais décomposée. Donc je suis allée porter plainte et j'ai demandé aux flics d'appeler Yanis pour savoir s'il était bien dans le train, parce qu'il avait dit qu'il allait rentrer à Paris. Donc le flic a appelé Yanis pour lui faire peur, lui dire que j'avais porté plainte et lui demander s'il était bien dans le train. Et après, il m'a dit qu'il était bien dans le train. Et donc j'étais... après, je suis allée me réfugier chez une meuf. Enfin, je suis pas partie direct marcher, mais j'étais un peu rassurée. J'ai su qu'il était rentré à Paris. Après, il a continué à me harceler, mais... Voilà, je l'ai bloqué partout. Et en fait, ce qui s'est passé récemment, parce qu'on parlait d'un truc qui s'est passé il y a 1 an et 3 mois, récemment, il m'a envoyé un SMS. Parce qu'en fait, entre-temps, j'avais débloqué il n'y a pas longtemps parce que je voulais quand même voir s'il m'envoyait des trucs. Et donc, il y a pas longtemps, il m'a envoyé un SMS avec une photo comme quoi il était à l'endroit où on s'était rencontrés et qu'il avait repris la rando à l'endroit où on s'était rencontrés, etc. Et qu'il pensait à moi, à notre relation, à ses erreurs, blablabla. Et qu'il espérait que ça allait bien se passer à la publication de mon roman. Enfin, un truc de stalker, de harceleur de ouf. Et donc, bien sûr, j'ai pas répondu à son message et je l'ai rebloqué. Mais tu vois, ça, c'était un an après qu'on se soit rencontrés. Donc, le mec ne lâche jamais l'affaire. Et j'ai un autre harceleur comme ça que j'ai rencontré en Russie. Je sais que pendant des années, il a continué à revenir de temps en temps. Je sais pas si vous en connaissez, mais les harceleurs, t'as l'impression qu'ils vont jamais lâcher l'affaire. Alors que c'est faux, hein. La plupart du temps, ils finissent au bout de plusieurs années par lâcher l'affaire et prendre une autre victime. Mais là, tu vois, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Et du coup, je l'ai rebloqué. Et comme je vous le disais, je peux revoir si la personne, même si je l'ai bloqué, je peux voir combien de fois elle m'a appelé ou elle m'a envoyé le message. Et là, bah, je vais pas voir, en fait. Tu vois, je vais pas dans mes paramètres voir, parce que j'ai pas envie. Donc je fais la sourde oreille, je fais comme si de rien n'était. Donc voilà, je tenais à rappeler dans cet épisode que le contexte de séparation, par exemple, quand une femme quitte un homme, hein, juste par exemple, ça sert souvent de justification à beaucoup d'hommes violents qui s'en prennent à leur ex, physiquement, verbalement, psychologiquement, sur les réseaux ou autres. Et d'ailleurs, de nombreux féminicides ou tentatives de féminicides sont commis au moment d'une séparation. Voilà. Moi, j'ai fait cet épisode du point de vue d'une femme cisgenre qui n'a jamais vécu en couple. Voilà, j'ai jamais vécu en couple, j'ai jamais été mariée, je n'ai pas d'enfant. Donc, pour finir sur Yanis Bayouri, c'était juste pour vous dire que maintenant, je suis vaccinée des mecs cisgenres, genre, ne m'approchez plus jamais. Je ne veux plus jamais être en couple avec vous. Genre, il m'a totalement vaccinée. Moi, je l'appelle le vaccin, ce mec. Mais c'est pour vous dire, j'ai jamais été en couple. J'ai jamais vécu en couple. J'ai jamais été mariée, j'ai jamais eu d'enfant et j'ai quand même géré ces ruptures-là. Mais bien sûr, ces ruptures, elles sont vraiment beaucoup plus simples que pour des personnes plus âgées, pour des personnes qui se trouvent dans d'autres situations. Voilà, je parle que de mon point de vue à moi. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul. Si vous avez des doutes sur votre relation actuelle, je vous conseille vraiment le chat commentonsaime.fr. commentonsaime.fr qui est animé par des pros qui répondront à vos questions et vous donneront des conseils personnalisés, des personnes féministes qui vous diront si votre couple, les doutes que vous avez, peut-être le comportement de votre mec ou de votre meuf voilà, qui vous pose question, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que vous avez raison de vous inquiéter, est-ce que vous avez raison de vouloir quitter la personne et comment faire. Donc ça, c'est le chat commentonsaime.fr, c'est anonyme et gratuit. Je mets le lien du chat dans les notes du podcast si ça vous intéresse. Voilà, ne restons pas seuls. En cas de séparation, entourons-nous de personnes de confiance, des amis, de la famille, des collègues, des associations. Il y a aussi le numéro 3919. C'est un numéro d'écoute ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les femmes victimes de violences. N'hésitez pas à les appeler. Quelle que soit votre situation, sachez que je vous crois et que je vous souhaite bon courage. Pour conclure, nous méritons de vivre seuls, libre et heureux, heureuse, si on le souhaite. Maintenant, la dernière question de sologamie habituellement, c'est la question caisse de résonance. Quels sont mes prochains projets? Sur quoi je voudrais attirer l'attention des auditoristes pour finir? Alors, bah, mon prochain projet, vous devinez ou pas? Mon prochain projet, c'est mon roman La Puissance. C'est un récit féministe de mon tour du globe en cargo que j'ai fait en 2019. Ce roman paraîtra dans toutes les librairies le 7 décembre prochain. On parle de quelque chose qui va se passer dans un mois, dans moins d'un mois. J'ai travaillé sur ce livre pendant 4 ans. 25 personnes l'ont déjà précommandé sur ma page Tipeee. Vous pouvez aussi le faire dès maintenant, d'autant que je parle beaucoup de ma relation aux hommes et de rupture amoureuse dans ce livre. Voilà, je mets le lien pour précommander le livre pour ma page, sur ma page Tipeee dans les notes de l'épisode. Chère auditrice, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce que vous avez déjà largué quelqu'un, quelqu'une? Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes sentie coupable? N'hésitez pas à m'écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est MarieAlbertFR sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez suivre le podcast Sologamy sur les réseaux sociaux, Sologamy podcast sur Instagram et Sologamy tout court sur Twitter et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir mes podcasts, je vous invite à leur mettre 5 étoiles et à les commenter sur votre application de podcast, que ce soit Sologamy ou Marie sans filtre, puisque aujourd'hui c'est un épisode qui est publié sur mes deux podcasts. Aujourd'hui, je voudrais remercier Mint Allo qui a laissé ce commentaire le 5 février 2021 au sujet du podcast Marie sans filtre. Cette personne a écrit « Tous mes encouragements, Marie. Je viens de finir mes études en journalisme et j'hésite à rejoindre une rédaction ou à me lancer en pigiste. Avoir ton vécu me permet de faire mon bout de réflexion. Merci. Merci à toi, Mint, allô, et bon courage dans ton travail de journaliste. » Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Si vous donnez 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois, vous rémunérez directement la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Manon, Aristide, Kevin, Thomas, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Colline, Clémence et Julie pour leurs dons réguliers. Je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Si vous êtes en particulier un homme cisgenre, n'hésitez pas à contribuer, c'est la meilleure façon de soutenir la lutte féministe. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le troisième jeudi de chaque mois. Je mets le lien description à ma newsletter dans les notes du podcast, c'est gratuit. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode de Sodogami. Et un nouvel épisode de Marie sans filtre. Merci pour vos nombreuses écoutes, vos nombreux retours, votre soutien. Et larguons-nous.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.